Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
L'entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'entretien littéraire et je suis extrêmement heureux de retrouver aujourd'hui l'écrivain turc Hakan Günday qui a obtenu en 2015 le prix Médicis étranger pour le roman Encore, paru chez Galahad et aujourd'hui, en ce début 2024, paraissent les 430 pages du roman Zamir, traduit du turc par Sylvain Cavaillès dans la collection Du Monde Entier des éditions Gallimard. Bonjour Hakan Günday.
Bonjour.
Hakan Günday, Zamir est votre cinquième roman traduit en français. On y retrouve toute votre ironie et la cruauté de votre univers. Ou est-ce la cruauté de notre univers ou de tous les mondes connus, cruauté envers les faibles, les blessés, les femmes, les réfugiés? L'univers de Zamir est un univers parallèle par rapport au nôtre, avec certaines déformations, me semble-t-il. Quel est ce monde, le monde du roman, Hakan Günday?
C'est un monde où la vie humaine perd sa valeur quotidiennement, tous les jours. Et c'est un monde dans lequel le personnage principal essaie de créer des instants de paix. Il essaie de retarder les guerres, il essaie d'arrêter la violence au moins pour quelques jours ou quelques mois. Et à force de vivre dans un monde où l'homme est un outil pour l'homme, ce personnage devient tellement désespéré que il essaie de trouver d'autres manières de créer la paix et en faisant cela, il se perd dans ce monde imaginaire mais qui ressemble tellement à la nôtre aussi.
Alors Zamir est un personnage, on vient de le voir, assez unique. Il endosse beaucoup, il prend beaucoup sur lui. Est-ce que pour vous, il ressemble à Gaza, le personnage de Encore? Ils ont quelque chose en commun dans ce côté de la, une forme de, pas de rédemption, mais en tout cas, de prendre sur soi un peu les malheurs du monde.
Tout à fait. Les enfants qui sont affectés par le monde m'intriguent beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de commencer l'histoire avec leur enfance. Avec l'enfance de ces personnages, parce que cet enfant qui subit toute la violence qui l'entoure, c'est à lui qui revient le choix de soit de faire continuer cette violence ou bien de l'arrêter avec son existence. Et donc, à chaque fois, un enfant vous donne l'opportunité de poser la même question encore et encore, qui est-ce que cet enfant serait capable de arrêter le cercle vicieux de violence?
Alors Zamir, vous venez de le dire, a souffert énormément de la violence du monde. Zamir a grandi dans un camp et suite à une horrible histoire, il est mutilé dans un attentat. Et c'est là qu'on le prend, qu'on commence ce récit qui est double. D'une part, le passé de Zamir et de l'autre, ce qui se passe pendant 3 jours d'une fin décembre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette narration justement double, que d'un côté on revienne en arrière et que de l'autre on soit au présent dans un moment bien précis de la vie de Zamir?
Alors peut-être je pourrais commencer par raconter ce que fait Zamir. Alors Zamir, il travaille dans une fondation internationale de paix. Ça veut dire qu'il est responsable de créer des scènes de négociation entre différentes parties qui font la guerre ou bien qui se battent. Et pour cela, il est sans cesse dans un rythme très 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 fort et il court tout le temps. Il est sans hâte, il court d'un conflit à l'autre, il court d'un pays à l'autre, il ne sait pas où et il se souvient plus de sa maison. Il vit dans des chambres d'hôtel. Et donc, il y a la moitié de ce roman dans lequel on voit cet homme qui est toujours assoufflé à cause de son travail. Et l'autre moitié, c'est son enfance, dans laquelle on voit comment il est devenu cet homme qui est complètement devenu, disons, une machine à faire la paix.
Alors commençons par son enfance, si vous le voulez bien, Hakan Gündayi, parce que c'est pas rien, l'enfance de Zamir. Non seulement on est dans un camp de réfugiés donc turc, à la frontière syro-turque au départ, ce qui vous permet évidemment de parler de cette situation, mais ensuite, bon, Zamir va être pris en main par déjà une première organisation humanitaire qui va l'éduquer, le prendre en charge, pour en faire une sorte d'emblème, de statut presque, de la bonne victime réfugiée.
Cette histoire était une opportunité pour moi, pour pouvoir poser des questions de ce genre, pour pouvoir par exemple analyser le fait d'une violence qui empoisonne tout ce qu'il y a autour d'elle. Et dans des régions de conflit, au moins dans ce roman, on voit bien qu'il est très difficile de garder son innocence, même si vous êtes dans l'humanitaire, même si vous êtes un ONG qui ne veut que sauver des enfants d'une région de guerre. Et c'est ce que subit en fait Zamir à un très jeune âge. Il devient une sorte d'outil de profit. Parce que la fondation, l'ONG qui s'occupe de lui, est aussi une fondation qui est obligée de récolter de l'argent. Et une fois que l'argent entre dans le jeu, eh bien, il vous est possible d'utiliser des enfants qui n'ont pas de visage, mais de les faire montrer à tout le monde et de les utiliser, ces enfants.
Alors, on sait tout le poids, hein, toute l'importance des réfugiés syriens pour la politique turque. Hakan Gündayi, est-ce que c'est dans ce contexte que Zamir, justement, a été écrit, c'est-à-dire avec un souci aussi de parler de la Turquie d'aujourd'hui?
Bien sûr. Une fois qu'on commence à raconter une histoire, même si cette histoire passe dans l'espace entre deux planètes, bien sûr que vous allez, à force, arriver à un moment où en fait vous racontez les choses que vous savez, que vous témoignez. Et donc, dans tout ce que j'écris, même si je le veux ou pas, il y a ce qui se passe autour de moi, les choses qui me dérangent, et les choses qui me choquent, qui me font peur. Et à chaque fois, à chaque roman, je vois que c'est une manière pour moi, d'abord pour moi, d'essayer de comprendre ce qu'il y a autour de moi. Et d'où, oui, à votre question, j'ai essayé de comprendre ce que c'est de quitter son pays et d'être prêt à renoncer à sa vie pour commencer une nouvelle vie.
Il y a aussi un moment, mais très précisément critique et ironique avec le monde d'aujourd'hui, notamment il y a un moment où on dit oui, alors une fois qu'on a découvert que la guerre civile en Syrie allait durer 100 ans, on a pris des décisions concernant les réfugiés. C'est d'une cruauté assez rare, mais assez juste en fait.
Dans le monde de Zamir, les conflits sont à leur paroxysme. Le racisme est à son paroxysme. Tout ce qu'il y a de négatif est à son paroxysme. Ça veut dire que tous les conflits sont devenus des opportunités de profit, sont devenus des parties d'un mécanisme qui servent à créer des profits. Et d'où, dans le monde de Zamir, ceux qui sont les responsables des guerres, donc ceux qui déclenchent les guerres, sont aussi ceux qui établissent la paix. Ce sont les mêmes gens. Et d'où vous avez, bien sûr, des scènes où la violence devient complètement banale, mais pour donner une idée, banale comme le journal télévisé que vous allez voir ce soir.
Alors, il y a quand même des personnages extrêmement forts, mais en même temps étrangement positifs peut-être, Zamir lui-même bien sûr, mais aussi Jacinta, celle qui va devenir un peu la mère de Zamir, en tout cas au début du texte, et qui justement l'opposé de ce qu'on attend d'une mère, qui est voilà, représente à la fois l'intérêt double de cette organisation humanitaire pour la survie, le bien-être de Zamir, mais parce qu'il a un intérêt. Et on a l'impression que tous les personnages sont régis par l'intérêt. Alors ça peut être la l'argent, mais ça peut être aussi le fait d'avoir un certain sens du bien, du mal. Mais toujours, il y a derrière un intérêt. Le désintérêt n'existe pas dans le monde de Zamir.
Non. Même si Akinta est le personnage le plus idéaliste, qui commence vraiment à faire ce travail avec des idéaux, même elle est empoisonnée par ce qu'il y a autour d'elle. C'est une des questions que j'essaie d'élaborer, en fait, avec cette histoire. C'est une fois que les bases, les fondements sont perdus, il est très difficile de construire quelque chose dessus. Donc, c'est pour ça que Zamir, quand il se pose la question de comment on peut faire la paix, il est obligé de revenir à la base de toute chose, qui est la valeur de la vie humaine. Parce que sinon, à part ça, si la vie humaine n'a aucune valeur, eh bien, tout devient question d'intérêt.
Alors, cette fondation, la première fondation qui s'occupe de Zamir et qui l'éduque, la fondation All for All, voici comment vous en parlez, Hakan Dündai. La fondation All for All, l'une des plus respectables au monde. À l'époque où l'on avait compris donc que la guerre civile en Syrie allait durer au moins 100 ans, la respectabilité pour une organisation caritative, c'était vital, car c'était elle qui permettait de récolter des dons. Et le premier objectif de ces organismes, ce n'est pas de distribuer de l'argent, c'est d'en récolter. Il n'y a rien de plus terrible que ça, en réalité.
Ouais. Malheureusement, c'est cette face-là que Zamir voit, surtout dans ses ONG. Parce que d'abord, c'est sa famille. Ses ONG, ce n'est pas une ONG sur un papier. Lui, il n'est pas neutre dans cette affaire-là. C'est sa famille. Et donc, il a confiance en ces gens-là. Et il a confiance en ces organisations-là. Il a beaucoup d'espoir en ces organisations. D'où sa déception est énorme quand il voit que ça fonctionne pas ou bien quand il voit qu'il y a une corruption là-dedans. C'est là qu'il est tellement déçu qu'il commence à les détester. Il commence à les voir comme des symptômes d'une maladie dans ces régions-là. Par exemple, il commence à voir les ONG comme la preuve que, en fait, on veut pas résoudre le conflit en question auquel ces ONG essaient d'aider. S'il y a un ONG, disons, à propos de la famine, par exemple, ça veut dire qu'on veut garder cette région de la Terre affamée. C'est comme ça qu'il perd, en fait, sa confiance envers ces organisations petit à petit.
Vous écrivez beaucoup plus loin dans le roman, Hakan Dündai, toujours à ce propos des organisations caritatives. Bref, les organismes caritatifs, dites-vous, étaient un tampon entre les riches et les pauvres qui permettaient aux premiers d'aider les seconds sans avoir à les rencontrer et sans salir leurs vêtements, qu'ils n'avaient donc pas à changer une fois rentrés chez eux. Il était bien sûr normal que tout cela se passe aux États-Unis, les œuvres de bienfaisance étant l'un des instruments de leur politique extérieure. J'avais jamais réfléchi à ça, qu'effectivement on peut voir les organisations caritatives ou humanitaires comme un buffer, un tampon entre les riches et les pauvres pour pas qu'ils ne se rencontrent. Là, vous parlez du Venezuela, on est au Venezuela à ce moment-là dans le livre.
Ces organisations sont les conséquences de toutes les inégalités existantes sur cette terre. Donc, leur point de départ, c'est déjà un peu problématique. Ils sont là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une volonté de changer cela, d'affecter cela dans un sens positif, mais à force d'exister à cause d'un très grand problème, eh bien, il est possible pour certaines organisations qu'avec le temps, ils peuvent devenir une partie du problème, eux aussi. Parce qu'ils existent à cause de ces problèmes. Donc, petit à petit, ils deviennent une partie de ce problème. Ils font partie du problème avec le temps. Et ils deviennent aussi comme une sorte de bouclier pour tous les gens qui ont tout ce qu'il faut dans cette vie. Et donc, il vous est possible de faire des dons, donc il vous est possible de supporter une organisation quelconque et de dormir tranquillement la nuit en disant que vous avez fait ce qu'il fallait faire, et sans vous poser la question peut-être principale qui est « qu'est-ce que mon État fait en dehors de mes territoires ?» Si vous posez pas cette question-là, si vous posez pas la question qui est, par exemple, pourquoi l'armée de mon pays est à 10 000 km de chez moi, en train de se battre avec des gens que je connais pas du tout, qui m'ont rien fait, si vous ne posez pas cette question-là, eh bien, la continuité de ça, c'est de faire un don à une organisation et de dormir tranquillement.
Hakan Günday, Zamir, donc l'homme sans visage, l'homme mutilé, à un moment va lui aussi avoir une deuxième transformation et il va passer d'être un instrument au service de cette organisation All for All pour devenir lui-même un homme de paix. Et comment c'est possible ça? Qu'est-ce qui se produit qui fait que on a la possibilité, quand on est un Zamir, de passer de l'un à l'autre? Quelle est cette conscience qui se réveille là?
Je crois qu'il en a marre. Il en a marre de voir des gens qui se battent au nom d'autres gens, au nom des profits des autres. Donc, il en a marre de voir toute cette violence autour de lui. Et lui, c'est un victime, premièrement. Lui, il est une victime de la guerre. Étant bébé, donc, comme vous avez dit, il est défiguré à cause d'une bombe. Donc, pour lui, c'est une affaire personnelle. Arrêter une guerre, ce n'est pas arrêter une quelconque guerre, c'est arrêter la guerre avec un grand G. Donc, cette affaire-là, pour lui, de créer la paix devient une question de vie ou de mort, littéralement. Mais, avec le temps, il voit bien que tout ce qu'il doit faire pour créer la paix, c'est la même chose que font d'autres gens pour faire déclencher des guerres. Donc, vous êtes obligé de convaincre quelqu'un qui se bat pour faire la paix. Vous êtes obligé de lui faire croire que la paix serait plus profitable que la guerre pour cette personne. Et pour cela, vous pouvez lui faire un chantage, vous pouvez lui mentir, vous pouvez lui faire tous les jeux possibles pour le convaincre. La violence s'il le faut, ou bien... tout ce qui est de négatif, vous pouvez l'utiliser comme un moyen.
On a l'impression que pour vous, en tout cas pour le monde du roman, le monde de Zamir, l'état normal de l'humanité, c'est la guerre. C'est la violence de guerre. Et que la paix, c'est l'exception qu'il faut obtenir et que c'est extrêmement difficile d'obtenir cette fameuse première paix qui serait la première fois un peu que l'humanité serait entièrement en paix.
Bertolt Brecht nous a dit « Tant que le progrès signifiera devancer l'autre, il y aura des guerres ». Si on a défini notre identité avec le fait de devancer l'autre, eh bien, la guerre, dorénavant, fait partie de notre identité. À mon avis, ça, il faut d'abord l'accepter. Et le deuxième étape, c'est comment on peut jeter la guerre de notre identité, comment on peut l'effacer. Parce que on a fait la locomotive de tout secteur économique, de toute technologie. La guerre est devenue le pionnier pour toutes sortes de progrès dans tous les secteurs. Donc, à mon avis, surtout dans le monde de Zamir, c'est ça le plus grand problème. C'est que la guerre est devenue quelque chose de naturel et banal. D'où la paix est quelque chose d'exceptionnel, n'est pas naturel. Donc, il faut le construire. Donc, il faut l'inventer, la paix. Il faut l'inventer, il faut la fabriquer et se souvenir qu'elle est très fragile.
Hakan Günday, il est beaucoup question d'invention dans Zamir aussi, d'invention technologique. On va y venir. C'est aussi un roman. Je voudrais pas que les auditrices et les auditeurs pensent que c'est un roman grave. C'est un roman douloureux qui montre un monde violent, un monde très triste, qui est aussi le nôtre. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, et notamment d'humour noir, qui est un peu ce qui caractérise votre plume, Hakan Günday. Notamment, vous nous faites rire beaucoup. Par exemple, avec ce fameux général Dajo, qui se fait offrir un godemiché moulé sur son sexe. Il est aussi question beaucoup de violences sexuelles dans le livre. Comme ça, ça lui donne la possibilité de pénétrer par procuration tous ceux qui vont l'utiliser. Et alors, il inonde la planète de reproduction de son zizi.
C'est une médaille qu'il distribue à ses généraux.
Mais c'est une idée assez magnifique, mais en même temps extrêmement perverse. Ça vous a fait rire ?
À mon avis, quand vous passez à un certain degré de désespoir, tout devient tellement ridicule que le seul réflexe humain, c'est d'en rire, je crois. D'où tous ces grands romans qui nous ont impressionnés, qui nous ont influencés, qui nous ont inspirés, même s'ils racontent des guerres inhumaines, des scènes inhumaines, arrive une phrase, résume tout en fait, et c'est dans cette phrase qu'on voit combien absurde et ridicule la violence humaine. Et donc après avoir écrit 1000 phrases, je crois que de temps en temps, j'ai pu arriver à cette phrase X qui dénonce... la ridiculité de
oui, c'est ça, c'est,
de la
c'est,
violence
c'est ridiculiser
humaine.
En fait
ouais.
Pas l'homme, pas l'être humain, mais la violence dont il est capable, ou même quand l'être humain essaye de faire le bien, ça donne des résultats assez pathétiques, comme par exemple cette conférence de Paris pour la paix. La Société des Nations avait été créée, elle avait été intitulée la conférence de la paix de Paris, et vous écrivez: on pouvait prendre le mot dans tous les sens sauf celui de paix, comme le mot « guerre », qui par exemple était utilisé à tour de bras dans cette conférence sur l'émigration. Mais comme elle n'était en réalité qu'un congrès de mathématiciens, le mot « guerre » y était utilisé à la place de « zéro », c'est-à-dire d'éléments absorbants. Et c'était normal, car de tout ce qu'on multipliait par la guerre, il ne restait ensuite rien. Ainsi, 75 millions de personnes multipliées par la Seconde Guerre mondiale égale zéro.
C'est l'effet... de la violence, je crois. Ça efface tout. Ça efface toutes les valeurs que vous essayez de construire pendant des siècles et des siècles. Avec la violence, ça s'efface en une journée. Avec une seule bombe, vous pouvez effacer tout ce que vous avez construit pendant des siècles, par exemple à propos des droits de l'homme. Tout ce que vous avez fait pour que l'être humain ait une valeur parce que c'est un être humain, il est possible d'effacer cette notion qui a été construite dans des siècles et des siècles en une seconde. D'où la guerre n'est que zéro. Ne donne comme conséquence que zéro. Zéro, il n'y a rien. C'est le néant. C'est le trou noir. C'est le trou noir dans lequel... l'être humain insiste à y vivre dedans.
Et il y a aussi quelques inventions assez poétiques, même si elles sont guerrières et violentes ou tristes, mais néanmoins très belles, comme ce physicien turc qui invente une machine à remonter le temps pour ceux qui sont allés en prison, mais qui ne peut être utilisée que par ceux qui ont passé du temps en prison pour justement oublier le temps de leur incarcération et vivre les années qui leur manquent. J'ai trouvé ça mais absolument magnifique. Il faut inventer cette machine et la réserver aux prisonniers politiques.
Bah, tout à fait, parce que la première chose empoisonnée, c'est la justice. Surtout dans ce roman, on voit bien que une fois que la justice elle est empoisonnée par les intérêts de ceux qui gouvernent, eh bien... à partir de ce moment, il n'y a plus d'oxygène dans une société où la justice ne fonctionne plus.
Et une autre invention, Hakan Gündayi, c'est celle de l'indivisibilité, qui est un gros problème qui déclenche un des conflits du livre, qui est cette fameuse guerre entre la Russie et la Chine. Est-ce que vous êtes amusé justement à faire des pronostics, à voir où pourraient avoir lieu les conflits, ou finalement ce que nous avons aujourd'hui nous suffisent?
Si on revient sur le fait que c'est une dystopie, grâce à ce roman, et grâce à l'histoire de Zamir, j'ai pu comprendre personnellement que toute dystopie qui sont datées à des dates de futur sont un peu naïves. Ça veut dire que, en fait, toute dystopie nous raconte soit un événement qui s'est passé dans le passé, ou bien qui se passe maintenant. Pour résumer, ce que je veux dire, c'est que une dystopie pour l'Europe, par exemple, est la vie quotidienne de l'Afrique. Et ça veut dire que ça se passe en même temps. C'est pas dans le futur. Il me suffisait de regarder un peu l'histoire du monde et de regarder un peu autour de moi pour raconter quelque chose de dystopique qui ne se passe pas dans 500 ans, dans 600 ans.
En même temps, quand on lit Zamir, on a l'impression que le décalage est minime entre notre réalité d'aujourd'hui et celle du roman. On se dit, tiens, demain, pas après-demain ou dans 6 mois, demain pourrait tout à fait être le monde de Zamir, malheureusement.
Même aujourd'hui. Aujourd'hui, dans des différentes régions. Donc, par exemple, une dystopie pour une quelconque région, et la vie quotidienne de l'autre, en fait.
Oui, mais aussi pour le présent. On voit qu'un peu comme chaque présent invente un futur différent.
Oui. Oui, et
parce qu'il y a quand même de l'espoir dans le roman.
Tout à fait.
Rakan.
Tout à fait.
Et d'où vous le tirez justement? D'où provient l'espoir dans Zamir?
Eh bien, Zamir, ayant un visage qui complètement blessé dès son enfance, a donc subi une opération et donc il a un nouveau visage. Mais le moment où on découvre cela, donc au début du roman, on voit bien que il n'arrive pas à sourire ou à pleurer, à montrer ses émotions. Mais sa volonté de les montrer est très grande. Donc, la volonté de prouver qu'il est toujours un être humain, en souriant ou en pleurant, en montrant ses émotions à travers son visage, avec son visage, est tellement grande que il devient la source de cet espoir qui ne finit pas, en fait. Parce que, à mon avis, surtout dans ce roman, la seule chose, uniquement être un être humain est suffisant pour avoir de l'espoir, au moins dans ce roman.
C'est ce qu'on voit, c'est que du plus profond du désespoir, c'est-à-dire justement de ce qu'on voit, des images extrêmement désespérées et terrifiantes des camps de réfugiés, des attentats, de la violence quotidienne, c'est de là d'où peut naître finalement une forme d'humanité qui est peut-être l'espoir.
Oui, parce que c'est la même personne. La même personne fait la guerre, la même personne fait la paix. Donc c'est un choix. La violence est un choix. La haine est un choix. Et Zamir nous rappelle que la vie qu'on mène, le monde qu'on voit à la télévision, c'est notre choix.
Et justement, Hakan Gunday, pour conclure, Zamir, en turc, si je ne me trompe pas, c'est le pronom.
Voilà.
Et le pronom, c'est donc nous, c'est la conscience. C'est chacun d'entre nous.
Je, tu, il, nous, vous, tout le monde. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Qui veut dire aussi en arabe le cœur, la conscience, la bonne volonté. Qui veut dire en russe pour la paix. Et donc c'était un mot très important pour ce roman. C'est avec ce mot-là que commence le roman. C'est le premier mot du roman, en fait, son titre, Zamir. Et pendant toute l'histoire, il essaye de redevenir Zamir, en fait. Il essaye de redevenir un être humain, un cœur, avoir un cœur et avoir une bonne volonté. Et il porte sa conscience sur son dos en forme d'une boîte de violoncelle pendant tout le roman. Donc, c'est l'histoire de Zamir qui veut redevenir Zamir.
Merci beaucoup, Hakan Gunday. Le roman Zamir, traduit du turc par Sylvain Cavaillès, est paru aux éditions Gallimard. C'était l'Entretien littéraire, une émission réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Dali Yarin à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsa qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouvons samedi prochain. Mais n'oubliez pas d'ici là de podcaster l'Entretien littéraire sur le site de France Culture et l'appli de Radio France.